Nous avons tous entendu l'adage « le client est roi ». ROI, trois lettres qui représentent le Graal de toute entreprise. Alors faisons entrer dans l'arène les troubadours, jongleurs et ménestrels des plus belles marques B2B. Ils sont Customer Experience, Sales et Marketing et vous révèlent les secrets d'une expérience client sublimée et créatrice de valeur. Je suis Léonie Deverdelan, fondatrice de Jeudi Merci et je vous souhaite la bienvenue dans les Fous du Roi. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Adeline Godino, responsable du marketing client chez Cegid, ou Head of Customer Marketing, comme diraient nos amis anglophones. Son rôle, mettre le client au cœur de la stratégie de l'entreprise, un vaste programme. Adeline, bonjour, est-ce que tu peux commencer par nous présenter ton entreprise, ton rôle, le tout en 2 minutes chrono?
Bonjour, oui, oui, sans problème. Donc je travaille chez Cegid depuis 3 ans. Alors Cegid, c'est une entreprise qui est assez connue, qui est une entreprise française, mais qui s'internationalise quand même beaucoup. C'est un créateur de solutions de gestion en cloud pour l'ensemble des entreprises françaises et mondiales aussi dans le monde. Donc en fait, on va toucher un certain nombre de marchés, donc des entreprises, des cabinets d'expertise comptable sur différentes problématiques. Donc on va travailler sur les métiers de la comptabilité, de la fiscalité, talent management. Donc aujourd'hui, Cegid, c'est une entreprise qui est assez importante puisqu'on a environ 350 000 clients à date et on frôle les 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc c'est une entreprise qui a abordé sa transfo il y a 3 ans. Elle est surtout connue grâce à Jean-Michel Aulas, hein, qui l'a montée il y a environ 35 ans. Et aujourd'hui, Cegid se transforme comme bon nombre d'entreprises et elle se transforme et elle transforme aussi du coup son marketing client dont j'ai la chance de représenter. Donc moi, j'ai une équipe au sein de Cegid qui travaille sur la base installée, c'est-à-dire sur le parc client. L'objectif de l'équipe, il y a plusieurs objectifs, mais en gros, aujourd'hui, ce que l'on fait, c'est de l'animation de notre base client. On va animer cette base, on va faire en sorte qu'elle utilise nos services via des stratégies d'upsell et de cross-sell. Mais on va aussi, et ça c'est assez nouveau, travailler sur la notion de rétention de nos clients. L'objectif c'est de les fidéliser, de les retenir, de limiter l'attrition et du coup d'améliorer l'expérience client que l'on peut avoir avec ce parc.
Et chez Cegid, tu l'as dit, il y a énormément de typologies de clientèle, énormément de produits différents. Toi, tu travailles sur chacun de ces produits ?
Oui, je travaille en transversal. Donc, chaque BU représente une expertise chez Cegid. Donc, on va avoir une BU expert comptable, on va avoir une BU qui va plutôt travailler sur les ERP. Au sein de l'équipe, on travaille en transversal sur l'ensemble de ces BU. Donc, ça demande beaucoup d'agilité, d'adaptabilité et une bonne connaissance aussi de notre parc client. Puisqu'en fait, on a des entreprises qui sont très différentes avec des tailles salariales qui sont vraiment... on peut avoir une boîte du CAC 40 et puis aussi une toute petite entreprise. Ce sont des univers qui sont totalement différents.
Et au sein de chaque BU, il y a également des personnes responsables du marketing client ?
Non. Au sein de chaque BU, on va avoir un directeur de la BU, mais au sein de chaque BU, on va avoir un responsable marketing au sein de la BU qui va travailler alors, surtout sur de l'acquisition. Alors, on commence évidemment à travailler un petit peu aussi au sein du client dans chacune de ces BU, notamment sur l'onboarding de nos clients. Mais la stratégie globale client, elle n'est pas portée dans la BU aujourd'hui.
Donc, elle est portée par ton équipe ?
Elle est plutôt portée par mon équipe. L'objectif, c'est finalement d'apporter du conseil, d'avoir une vision globale et du coup que ça puisse redescendre au sein des BU pour que le responsable marketing de la BU puisse mettre en place des actions correctives ou des actions tout court marketing en lien avec ce marketing client.
Ok, et donc ton équipe, comment est-ce qu'elle est évaluée ? Comment sont définis vos objectifs ?
Alors aujourd'hui, un des objectifs sur lequel nous sommes évalués, ça s'appelle l'influence marketing sur notre parc client. Cette influence marketing, elle est extrêmement importante puisque on va avoir des clients qui vont nous appeler, qui vont directement basculer chez les sales. Donc, on va enregistrer le chiffre d'affaires généré au sein de l'équipe commerciale. En revanche, évidemment, ces leads, ils sont influencés par le marketing. Et c'est cette influence-là qui est extrêmement importante pour nous, et c'est sur ces indicateurs de performance-là que nous sommes évalués. Après, on a d'autres types d'indicateurs de performance qui sont un petit peu différents, qui sont d'ordre un petit peu plus qualitatif, toujours smart, évidemment. Mais c'est vraiment l'influence marketing qui drive notre quotidien aujourd'hui.
Ok, eh ben, merci beaucoup. On peut passer à la suite. Donc, tu le sais, dans Les Fous du Roi, on aime disséquer une opération pour la comprendre dans les moindres détails. Et aujourd'hui, on va parler du parcours de rétention sur votre BU expert comptable. Alors, pourquoi est-ce que c'est un sujet particulièrement intéressant ?
Alors, c'est un sujet intéressant parce que c'est assez nouveau chez Cegid, déjà, d'avoir un parcours de rétention. C'est extrêmement important puisque ça a posé les fondations de ce qu'on est en train de faire. Donc, on a travaillé sous forme de POC sur cette BU expert comptable. Donc, concrètement, comment est-ce qu'on a travaillé ? On a déjà souhaité, dans un premier temps, travailler l'ensemble des clients sur lesquels on avait la notion de churn élevée. C'est une notion prédictive qui a été travaillée en amont par notre équipe data. C'est-à-dire qu'en fait, on va appliquer des critères sur chacun de nos clients et ces critères vont contribuer ou pas à donner un score qui fera que le client est supposé être fragile ou ne pas être fragile. Par rapport à cette supposition, on a donc extrait cette population de clients, il y en avait à peu près 300, qui étaient travaillés dans le cadre de nos migrations. Donc, Cegid aujourd'hui, comme un certain nombre de nos concurrents, travaille sur de la migration. Donc, la migration, c'est quoi ? C'est le fait de basculer des clients qui sont sur des logiciels on-premise vers du cloud. Donc, c'est un fort enjeu, à la fois pour le client, mais aussi pour nous. Et évidemment, ces changements, ces transformations sont forcément vecteur de crainte pour le client et ça fragilise le client. Donc c'est pour ça qu'on a voulu déjà dans ce POC-là prendre ces clients qui étaient en cours de migration, prendre ceux pour lesquels on pensait qu'il y avait vraiment un vrai risque et on a décidé de les appeler. Ça, c'était pour la partie préventive. On a aussi travaillé dans ce même POC sur une population dite curative, un travail curatif. Ça veut dire qu'on a pris nos clients qui, eux, avaient déjà basculé de l'autre côté, c'est-à-dire qui avaient demandé une résiliation. Et on a travaillé sur cette population pour voir dans quelle mesure on était, malgré tout, en capacité de les rattraper. Donc ça, c'était une action curative. Donc on a pris cette totalité de clients, donc les 300 et quelques clients, et on les a appelés. Alors, qu'est-ce qu'on leur a raconté au téléphone ? Déjà, on s'est présenté comme le service qualité et non pas comme le service commercial. Ça, c'était déjà important pour justement instaurer une certaine forme de confiance avec ses clients. Et lorsque on les a appelés, pour les clients qui étaient en préventif, on a préjugé de rien. On considérait que dans nos datas, ce client était en churn élevé, prédictif. Mais lorsqu'on les a appelés, on a juste voulu savoir s'il y avait des points, des pain points, des points de douleur à résoudre. Quand il n'y en avait pas, il n'y en avait pas. Quand il y en avait, en revanche, évidemment, on faisait en sorte de résoudre ce problème qui pouvait être un problème pricing, un problème commercial, un problème customer care. Résoudre ce problème pour ensuite, une fois le problème résolu, le rebasculer au sales.
Donc, vous avez essayé de comprendre quels étaient les points à améliorer pour qu'eux restent clients ?
Absolument.
Ok.
Et ces points, ils peuvent vraiment être de nature très, très différente. Hein. On a des clients qui étaient gênés parce qu'on ne les appelait pas suffisamment, des clients qui étaient gênés pour des raisons tarifaires et des clients qui étaient ennuyés parce qu'un certain nombre de tickets qui étaient envoyés au customer care n'étaient pas résolus dans les temps qui leur semblaient importants pour eux et dans les temps impartis parfois. Donc,
et donc tous ces points d'insatisfaction les pousser à se dire qu'ils ne voulaient pas migrer, qu'ils ne voulaient pas passer sur une version cloud du produit, ou est-ce que c'était dissocié de la migration ?
Non, en fait, c'est quand même lié. C'est-à-dire qu'un client qui ne souhaite pas migrer, c'est parce qu'il a des points de douleur qui sont complètement distincts de la migration.
D'accord, ok.
Alors, parfois non, parce que souvent, il y avait aussi la problématique du pricing qui était directement liée à la migration. Mais l'objectif, c'était vraiment de résoudre ces problématiques-là pour le réengager sur la migration. Donc, on a eu un taux de contact argumenté, et ça, c'était un des indicateurs de perf qu'on voulait
suivre.
Qu'est-ce
que tu appelles taux de contact argumenté ?
Alors, le taux de contact argumenté, c'est le fait d'avoir un échange oral avec un client. Ça, c'est un contact argumenté, c'est-à-dire quand on éprouve des arguments avec le client. Et donc, on a eu un taux de contact argumenté qui était bien supérieur à ce qu'on s'était fixé, puisqu'il était de 80%.
Et votre objectif initial ?
50%.
D'accord.
Un client sur deux. Donc ça, c'était vraiment la bonne nouvelle, et c'est pour ça que ce POC a été concluant, de ce point de vue-là. Donc ça, c'était extrêmement important, et c'est ce qui nous a engagés ensuite à justement faire basculer ces clients pour lesquels on avait un contact argumenté et sur lesquels on pensait qu'il y avait un rattrapage possible et une résolution du problème déjà faite. On les a réembarqués sur les commerciaux pour que les commerciaux transforment cet essai.
D'accord. Et donc, pour bien comprendre ce POC, donc cette preuve de concept, l'idée, c'était de vous concentrer sur la rétention d'une BU, celle des experts comptables, d'identifier un certain nombre de clients à risque de churn suite à la migration, et de voir, de tester une approche d'appel vraiment en one-to-one pour voir si ça pouvait les convaincre de rester, leur permettre d'être fidélisés, c'est bien ça ?
Ouais, c'est ça. C'était vraiment ça. C'était vraiment surtout aussi de les réengager sur la migration, parce que là, l'objectif, c'était vraiment la migration. Mais ça nous a aussi donné des billes dans le sens où, en dehors de la migration, on s'est quand même rendu compte que les clients aimaient être appelés.
Ok.
Ils aimaient être appelés par Cegid. Parce que c'est pas toujours évident d'avoir le commercial au bout du fil. Il y a parfois des files d'attente au sein du customer care, et donc les clients aiment échanger. Là, en l'occurrence, c'était le service qualité, et je pense que ça, c'était très très important, justement dans la démarche, de se présenter comme le service qualité et non pas comme le service commercial. Donc, ça dépassait un petit peu le cadre de la migration. Ça nous a donné des indications, et on s'est dit qu'il fallait vraiment qu'on poursuive ce travail-là d'échange humain et oraux avec nos clients.
D'accord. Et donc, vous avez appelé 300 clients, c'est bien ça ?
Oui.
Il y en a 80% qui ont répondu.
Oui.
Combien est-ce que vous avez réussi à en conserver ? Combien vous avez migré sur votre nouvelle solution ?
Alors, il y en avait déjà un certain nombre qui étaient déjà prêts à migrer, en fait. Hein. C'est juste que, pour une question de délai, ils ne l'avaient pas encore fait. En tout, sur les 300 clients, on en a 40 qui n'avaient pas du tout l'intention de migrer et qui étaient rattrapables. Et sur ces 40-là, bah, c'est toujours en cours, hein, parce qu'il y a tout un travail de fond, c'est tout neuf. Ces 40-là ont été donc donnés aux équipes commerciales en charge de la migration pour justement les engager, les transformer. Donc là, c'est en cours, je n'ai pas encore trop d'infos là-dessus, mais je sais qu'ils travaillent dessus et que par ailleurs, ils sont aussi aidés par un plan de rétention pricing sur lequel nous travaillons, qui est extrêmement important pour les commerciaux et qui va les aider là aussi à simplifier la transformation de l'essai.
Et donc le plan de rétention pricing, c'est quoi ? C'est un discount qu'on offre aux clients qui ne voudraient pas migrer ? C'est une offre totalement différente ? Comment ça fonctionne ?
Alors ça, c'est encore tout nouveau. Donc il y a la directrice du pricing qui travaille sur ces sujets. Ce qu'on essaye, nous, de faire, c'est évidemment de ne pas dégrader de la valeur. Donc ça va plutôt être d'engager les clients sur des services additionnels, de manière gratuite, j'ai envie de dire, pendant un certain temps. Mais on va plutôt travailler là-dessus que sur de la dégradation de la valeur. C'est du discount sans vraiment l'être. Et donc là, on est vraiment en train de travailler dessus, puisqu'en fait, on souhaite, et ce que je disais tout à l'heure, c'est que ce POC a été concluant, probablement significatif, et qu'on souhaite finalement transformer ce travail-là et du coup le déverser sur l'ensemble des BU à terme.
Et pourquoi est-ce que tu penses que cette approche d'appeler un par un les clients à risque va fonctionner sur le long terme ?
Parce que je pense que, et je sais que la directrice de l'expérience client est d'accord avec moi, parce que l'on pense qu'il n'y a rien de tel que l'échange avec le client. C'est dans les relations sociales, c'est ce qui fonctionne aussi le mieux. On envoie un certain nombre d'emails, comme le font toutes les entreprises, mais l'email ou du coup un email avec un questionnaire, c'est très bien, hein, on le fait, mais c'est pas suffisant parce que le client parle beaucoup. Quand je dis qu'il parle beaucoup, c'est que là, la moyenne de l'échange que l'on a eu, c'était autour de 10 minutes.
Ah oui, donc vous avez des clients bavards.
Donc des clients bavards, parce que des clients en pleine migration, en pleine période fiscale, d'ailleurs j'ajouterais que c'était la période fiscale, donc les experts comptables sont parfois moins, enfin ils sont très sollicités pendant cette période, donc ils sont moins disponibles. Et 10 minutes en moyenne de conversation, c'est beaucoup. Et donc, c'est aussi cet indicateur-là, on était parti sur 7 minutes, c'est cet indicateur-là aussi qui nous a fait dire, bah, finalement, les clients, il faut qu'on entretienne la relation. Et cette relation, elle sera apaisée, elle sera plus fragilisée si on travaille sur ce point.
Et tu nous disais tout à l'heure dans l'intro que Cegid a plusieurs centaines de milliers de clients. Passer 10 minutes avec chacun d'entre eux, ça représente beaucoup de temps et donc un coût assez important. Comment est-ce que vous pouvez justifier ce coût? Comment est-ce que vous pouvez mesurer le retour potentiel sur cet investissement?
Alors déjà, on ne va pas appeler l'ensemble des clients. Encore une fois, c'est l'équipe data qui nous permet de segmenter cette population et d'appeler prioritairement une partie de la population, c'est-à-dire les clients qui sont en churn élevé ou les clients qui sont en cours de résil. Donc déjà, ça limite quand même beaucoup. Hein. Du coup, on a déjà finalement une segmentation. Donc il est vraisemblable qu'on ne travaille que sur cette population, en one-to-one, j'entends. Ensuite, évidemment, comme toutes les entreprises, c'est toujours compliqué finalement d'identifier tout de suite l'impact business quand on appelle un client, parce qu'en réalité, il n'y en a pas tout de suite. Alors là, dans le cadre de la migration, c'était un peu particulier, on va pouvoir le faire puisqu'il y a un rappel des commerciaux et donc il y a une problématique quand même business derrière. Mais en temps normal, si on passe juste un appel de qualité, il ne se passera rien. Donc, ce qu'on va nous identifier, et ça, c'est tout un travail, c'est le travail qu'on doit faire, c'est justement les indicateurs de performance de fidélisation. En particulier, moi, je pense souvent à la lifetime value parce que c'est celle qui est le plus souvent utilisée. Là, aujourd'hui, encore une fois, c'est embryonnaire, c'est quelque chose qu'on doit travailler, mais sur lequel, évidemment, on est très, très impliqué.
Et donc, sur ce POC, ces sujets d'indicateurs de performance, d'indicateurs de retour sur investissement. Ça a été des sujets que votre direction vous a demandé d'analyser dès le POC ou qui se feront par la suite?
Non, je pense que ça va se faire par la suite. Là, le POC, c'était vraiment histoire de mettre le pied à l'étrier. Mais ça va arriver, très clairement. Parce que sur le POC, déjà, on s'était fixé des indicateurs de perf, non business, mais des indicateurs de perf, on va dire, qualitatif.
Par exemple, le taux de
contact argumenté. On s'était aussi fixé du coup le taux de la durée en fait de l'appel. Ça, c'était aussi très important. Donc ces sujets-là, on les a calés. Ça, c'est bon. Maintenant, d'un point de vue quanti, il faut qu'on travaille dessus et surtout il faut qu'on ait de l'historique et du volume. Donc là, c'est encore un petit peu tôt, mais évidemment, on va y venir. Ça, c'est une évidence.
Et tu me disais quand on a préparé cet épisode que vous utilisez énormément Salesforce chez Cegid. Ces indicateurs comme la lifetime value, c'est quelque chose que vous traquez déjà dans Salesforce?
Non, pas encore. Là, aujourd'hui, on travaille du coup beaucoup justement sur des indicateurs, on va dire, commerciaux. Hein. C'est vraiment ce qu'on fait avec Salesforce et aussi l'influence marketing. Donc, mais aujourd'hui, on n'en est pas là. On n'a pas encore travaillé sur ces sujets vraiment très spécifiques aux clients et à la valeur du client. Voilà, mais ça, c'est un sujet effectivement qu'il va falloir qu'on traite. Mais là, aujourd'hui, on n'en est pas encore là.
C'est tous les projets commencent par quelque chose de petit et ensuite tout sera traqué dans Salesforce. Et je reviens sur le ciblage de vos clients qui ont le plus gros risque de churn.
Oui.
On voit fleurir les logiciels qui permettent d'identifier les contacts à risque, de savoir sur quel client prioriser ses efforts marketing. Vous utilisez un logiciel de ce type ou c'est quelque chose que vous faites totalement en interne?
Alors là, ça a été fait totalement en interne. Hein. C'est vraiment le cerveau de l'équipe data. Et ça fonctionne plutôt pas mal. Je pense qu'il y a quand même des choses imparables. Alors, je comprends complètement justement l'usage et l'utilité de ce type de produit. En revanche, il y a quand même quelque chose qu'on n'a pas quand on fait ça, c'est la connaissance du marché. Et ça, chez Cegid, c'est quand même très important. Et dans les critères qui ont permis de déterminer le niveau prédictif de churn, il y a cette connaissance-là. Et ça, c'est dans la tête d'un humain et c'est pas ailleurs. Et c'est tout ce travail-là qui fait que on pense que ce test, que la manière dont le churn prédictif a été identifié est bon. Et que bah là, c'est aussi un moyen de le tester, hein, clairement, ce POC. Hein.
Et donc, pour savoir si ce ciblage fonctionne, je te pose beaucoup de questions très data parce que ça m'intéresse particulièrement. Mais du coup, est-ce que dans les clients que vous allez réussir à récupérer à risque de churn élevé, mais que vous allez réussir à récupérer. Vous faites du feedback à l'équipe data pour qu'ils puissent affiner leurs algorithmes, ou est-ce que pour l'instant cette boucle de rétroaction n'est pas finalisée ?
Alors cette boucle de rétroaction n'est pas finalisée, mais oui, évidemment, c'est l'objectif, hein, c'est-à-dire d'identifier avec eux, donc encore une fois, il faut du volume, les clients qu'on avait identifiés comme en churn élevé, qui ne le sont pas. Parce qu'on les a eu au téléphone et que manifestement, il n'y a pas de sujet. Et donc, de travailler sur ces problématiques. Mais alors ça, on n'en est pas encore là, parce que, encore une fois, c'est qu'on a eu... Enfin là, on pourrait faire le test sur 40 clients, c'est trop limité. Mais quand on sera sur des volumes plus importants, oui, ce sera intéressant, tout à fait.
Bon, donc, on a beaucoup parlé data. J'ai une question maintenant qui concerne vos relations avec les équipes commerciales. Donc, vous appelez, le service qualité appelle vos clients à risque pour comprendre quelles sont les problématiques. Vous avez potentiellement de nouveaux pricing spécifiques à leur présenter pour les convaincre de rester fidèles à Cegid. Mais à cette étape-là, il faut qu'un commercial rappelle le client. Est-ce que c'est un transfert qui se fait simplement, ou est-ce qu'il y a des points de vigilance à avoir si on voulait mettre ça en place dans sa propre entreprise ?
Alors là, il se trouve que c'était assez simple, puisque comme on était sur un sujet de migration, évidemment, les équipes commerciales étaient très impliquées dans le projet. Donc ça n'a pas posé de problème particulièrement, parce que c'était des clients qu'ils devaient rappeler. Alors effectivement, après, dans un schéma un peu plus global, si on sort du cas de la migration et qu'on souhaite appeler des clients pour appeler le client et pour avoir un lien avec eux. Là, effectivement, c'est plus complexe. À mon avis, ça ne peut fonctionner que si le commercial a un incentive sur cette action. Sinon, ça ne fonctionne pas. Donc là, nous, on est plutôt parti pour travailler avec une société extérieure qui va à la fois faire de la qualité et du commercial.
D'accord.
Pour le moment. Voilà. Mais effectivement, il faut engager financièrement le commercial à faire ce type d'appel, parce que c'est très particulier en réalité, hein, cet échange-là. J'ai envie de dire que là, c'était aussi particulier parce qu'on réengageait le client d'un point de vue business, mais si on se dit qu'on appelle les clients qui sont en churn élevé et qu'on veut juste comprendre ce qu'il se passe, résoudre un problème, mais qu'il n'y a pas de réengagement par ailleurs... on n'a pas nécessairement besoin d'avoir un profil très commercial.
Ouais, en fait, c'est un appel qui est vraiment un mix de customer success, de support, de sales.
C'est pour ça que c'est un profil qui est très particulier. Là, on a bossé avec les commerciaux parce que c'était important aussi de les engager dans cette démarche-là, mais c'était parce que c'était sur la migration. Quand ça sort de la migration, là, les choses deviennent un petit peu plus complexes. Et je ne suis pas persuadée que ce soit un travail pour des commerciaux.
Et aujourd'hui, vos équipes commerciales font principalement de l'acquisition ?
Non, pas du tout. C'est assez partagé. En fait, on va avoir de la télévente interne. Ils vont, eux, plutôt travailler sur le parc client. Ils font un petit peu de migration. Mais là, en l'occurrence, pour le POC CPA, c'était la migration. Dans ce cas-là, c'était vraiment les commerciaux terrain qui travaillaient dessus. C'était une équipe spécifique. Donc, ça dépend vraiment des problématiques, des expertises et des BU.
On va maintenant passer à ma section préférée, à mon étape préférée de ce podcast, de l'autre côté du miroir. Donc Adeline, toi en tant que cliente, quelle est l'expérience qui te marque le plus et qui t'inspire le plus au quotidien ?
Alors, comme je le disais, en fait, je ne suis pas très très marketing dans ma vie personnelle, mais je dois dire quand même qu'il y a une marque que j'aime particulièrement, c'est Yves Rocher. Alors, oui, c'est une marque un peu vieillotte, mais qui, quand même, je trouve, a bien su tirer son épingle du jeu, là, hein, franchement, avec les produits. Pourquoi Yves Rocher ? Alors, pour plusieurs raisons. Parce que déjà, je ne reçois jamais de mails d'Yves Rocher.
Alors que sinon, tu reçois des milliers de mails chaque jour ?
Je reçois des milliers de mails. Yves Rocher, je n'en reçois jamais. Et pour autant, je suis assez cliente, en fait. Donc, moi, j'apprécie pas mal, en fait, ce trait-là. Et surtout, je pense qu'il y a un gros travail de segmentation. Et c'est ce travail-là de segmentation et probablement d'ailleurs de pricing qui est assez vertueux. Alors, pour nous, évidemment, c'est complètement transparent. Mais dans les faits, c'est assez imparable. Je sais que nous, on travaille beaucoup avec la notion de RFM, récence, fréquence, montant. Et je sais qu'ils ont rajouté aussi un autre item dans la RFM. Et je pense qu'ils sont très, très, très en avance sur ces sujets-là. Et donc, du coup, c'est vertueux parce qu'on ne reçoit pas d'email. En revanche, on reçoit peut-être... une fois tous les deux mois, un petit coupon papier bio donc en lien avec l'univers quand même de la marque, hein, faut le dire. C'est une fois tous les deux mois, c'est très ciblé, c'est souvent assez simple et honnêtement, ça fait venir les gens en magasin.
Ça ressemble à quoi ce coupon papier ?
C'est un petit coupon très promo, avec des petites fleurs partout, les photos des produits. Donc c'est très promo, hein, c'est moins 50%, il y a des cases à gratter. Mais finalement, puisque les promos sont assez rares, mais qu'elles sont très importantes, et qu'on est très peu sollicité par Yves Rocher par ailleurs, on s'en souvient. Et en plus, c'est du papier. C'est quand même très rare maintenant de recevoir du papier. Hein. Je pense qu'ils font quasiment pas d'online en fait.
Mais donc j'entends plusieurs aspects qui te plaisent dans cette façon de communiquer. Il y a à la fois le fait que ce soit papier différent et le fait que ce soit peu fréquent et bien ciblé. Quelque chose de peu fréquent, bien ciblé que tu recevrais par mail aurait le même impact ou
non. Non, parce que moi je reçois beaucoup plus d'emails que de courriers quotidiennement. Enfin, je ne sais pas vous, mais moi, je reçois peut-être 2 courriers par semaine. Quoi. J'en reçois très, très peu. On en reçoit très peu, à part par l'administration.
C'est beaucoup trop des impôts. Ouais,
ouais c'est ça, voilà. À part par l'administration fiscale ou quand il faut payer des amendes. Mais en réalité, sinon, on ne reçoit rien, donc on le voit. Et vraiment, ça fait venir du monde en magasin. Enfin, moi, je le vois. J'ai un Yves Rocher dans ma rue. Et il y a beaucoup de monde. Et toutes les classes d'âge et toutes les catégories sociales.
Et tu parlais de RFM, c'est un terme que je ne connaissais pas. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est ?
Alors, c'est un principe de segmentation, récence, fréquence, montant, qui consiste en fait à classifier un parc client en fonction de la récence de son achat, en fonction de la fréquence de ses achats et en fonction du montant de ses achats. Et donc, du coup, on va avoir une classification qui peut faire apparaître 6 grands profils, par exemple. Et puis, au sein de chacun de ces profils, on peut aussi avoir d'autres découpages, évidemment. Mais ça permet de segmenter de manière assez... c'est assez idiot, hein, comme il y a 3 à ce triptyque-là. En fait, il est assez imparable, il est assez fort. Et c'est nous aussi, de cette manière-là, en partie, que l'on travaille notre base chez Cegid.
Donc, vous vous inspirez de Yves Rocher?
Alors, ce n'est pas Yves Rocher qui l'a inventé, hein, le principe de la RFM, mais c'était très utilisé quand même, justement, effectivement, en grande conso, c'est au départ. Et puis, petit à petit, en B2B, c'est arrivé aussi. Et franchement, ça fonctionne parfaitement bien.
Je pars un peu de Yves Rocher pour revenir sur Cegid. Ça ressemble à quoi votre RFM chez Cegid ? Qu'est-ce que vous mettez en place comme communication spécifique ? Est-ce qu'il y a une chose qui te vient en tête ?
Alors, c'est un peu compliqué parce que les communications spécifiques, en fait, elles sont vraiment, vraiment chez les campaign managers des BU. Puisqu'en fait, chaque expertise est très particulière. Donc, on ne va pas tout à fait s'adresser de la même manière à une entreprise qui est très grosse avec, du coup, un marché de valeur et un marché de volume. C'est quand même pas du tout la même chose. Mais effectivement, il y a du travail qui est réalisé là-dessus. Et nous, on va surtout l'utiliser justement là, dans les parcours clients que l'on met en place. Par exemple, on a un parcours qui s'appelle l'onboarding pour les nouveaux clients. Évidemment, on va extraire les nouveaux clients. Donc là, on va faire intervenir la récence. La fréquence, pas vraiment, mais la récence. Donc, ça va nous servir. Ensuite, dans la partie Everyday Life, sur ses clients, donc on va fidéliser. On va, je dis on va parce qu'on ne l'a pas encore fait. On ne va pas s'adresser de la même manière à un client qui a un tout petit MRR chez nous et qui achète très peu, avec un client qui est un trésor. Ça ne sera pas du tout la même chose. Et donc, du coup, nous, on va l'utiliser sur...
Donc là, c'est la partie montant qui va...
Qui va jouer, bien sûr. Ouais. Plus le montant est élevé, plus on va avoir un modèle de vente qui va être ce qu'on appelle high touch, où en fait on va avoir un lien avec un commercial. Donc il y a tout un travail, hein, comme ça, de dentelle qu'on va mettre en place avec la RFM, d'un point de vue global.
Ouais, un travail qui doit être passionnant à faire quand on a une base client aussi riche que celle de Cegid.
Ouais.
On passe maintenant aux questions flash, un ensemble de questions auxquelles tu dois répondre du tac au tac. Première question, c'est quoi l'outil dont tu ne pourrais plus te passer ?
Donc c'est Salesforce, parce que Salesforce c'est vraiment un outil qui est très puissant, qui nous aide beaucoup. Alors nous aujourd'hui chez Cegid, on est quand même très sales, hein, pour le moment, mais qui nous aide quand même beaucoup dans nos relations avec les sales, qui est extrêmement extrêmement important au quotidien. Et donc voilà, pour moi c'est vraiment l'outil magique au quotidien.
Et donc Salesforce est ouvert en permanence sur ton ordinateur ?
Ouais, alors pour un certain nombre de raisons, mais oui, il est beaucoup ouvert. Je m'en sers aussi pour faire des extractions. Ça me permet aussi d'analyser un certain nombre d'éléments. Et donc voilà, donc, c'est quotidien en fait.
Et donc ça fait quelques années que tu travailles dans le marketing. C'est quoi le plus gros flop que tu as eu sur une opération?
Donc je le racontais tout à l'heure. Donc c'est quand j'ai commencé à travailler, j'avais fabriqué des urnes en plexi. 25 000 urnes en plexi logotypées pour le CERNAM, avec une petite encoche pour mettre le petit bulletin. Et en fait, j'avais oublié de l'ouverture de cette urne. Donc, ça nous a fait perdre beaucoup d'argent. On a du coup rapidement fait des urnes en carton.
Qui, elle, pouvait s'ouvrir,
qui était logotypée CERNAM, mais qui était beaucoup, beaucoup moins jolie.
Et qu'est-ce que vous avez fait des 25 000 urnes inouvrables?
On les a achetées. Enfin, elles ont été, évidemment, c'était du plexi, donc c'est réutilisé. Mais ça a été jeté à la poubelle.
Et on t'en a voulu?
Bah, un petit peu, sur le moment. Mais après, ça a été vite oublié. Je venais de commencer hein, dans le milieu professionnel.
Si je te donnais un budget illimité, t'en ferais quoi à part faire encore plus d'urnes qui ne s'ouvrent pas?
Donc, en réalité, je le disais aussi, j'ai été très ennuyée par cette question parce que pour moi, le fait d'avoir un budget illimité, ça m'empêcherait finalement de réfléchir. Je pense que le fait d'avoir un budget limité, d'avoir un budget où on sait qu'on n'a que ça, ça nous permet quand même de réfléchir ensemble, d'avoir des idées innovantes. Et cette innovation, elle est très importante pour les équipes. Donc un budget illimité, ce que je disais tout à l'heure, c'est comme une vie éternelle, c'est comme l'éternité. C'est compliqué.
Et donc, si tu avais un budget illimité, la première chose que tu ferais, c'est que tu demanderais à ce qu'on te le limite.
Ouais, je pense.
C'est quoi le pire défaut à avoir quand on fait un métier comme le tien?
Donc, l'équipe marketing, mais chez Cegid en général, il y a une grande adaptabilité. Parce que Cegid a été une entreprise qui s'est transformée là depuis 3 ans. Donc, ça demande beaucoup d'agilité. Et au sein du marketing et du marketing client aussi, c'est vraiment ça, c'est l'adaptabilité, l'agilité. Chez Cegid, on a un mot d'ordre, c'est apprendre à prioriser et à déprioriser. Donc, ça veut dire qu'on est en capacité systématiquement d'être vraiment extrêmement agile. Donc, ça peut être très frustrant. Pour autant, c'est vraiment indispensable dans un univers aussi mouvant que le nôtre.
Le client pas content, on lui dit quoi ?
Le client pas content, on lui dit quoi? Alors, le client pas content, on lui parle, en fait. On lui parle. On essaie de comprendre son motif d'insatisfaction. Il peut être vraiment d'ordre très, très, très différent. C'est un client qui, au fin fond du Lot, qui n'a pas la fibre et qui s'inquiète parce qu'on lui demande de passer en SaaS. Donc ça, c'est un vrai sujet. Ce sont des clients qui trouvent qu'on est trop long dans la résolution des tickets. Donc ça, c'est d'un point de vue, c'est du point de vue du client, évidemment. Donc on résout ces problèmes.
On parle d'une guerre éternelle entre les sales et le marketing. Si tu devais leur faire un compliment pour enterrer la hache de guerre, ce serait quoi?
Alors nous, vraiment, clairement, il n'y a pas de hache de guerre parce que justement, quand je suis arrivée chez Cegid, ce qu'on m'a demandé de faire, c'est que l'équipe et du coup moi, on soit l'unique client avec les sales. Ça fonctionne très très bien aujourd'hui, donc il n'y a vraiment pas de hache de guerre. On échange toutes les semaines, tous les jours. Moi, j'ai pas vraiment de compliments. Je crois que c'est un compliment à partager, c'est-à-dire que la complémentarité de nos métiers, c'est ça qui nous permet aujourd'hui de bien travailler ensemble. Mais en plus, ils sont très sympas.
Chez Je dis merci, tu sais qu'on aime les cadeaux. Si on reste sur notre sujet d'expérience, toi, dans ta vie pro ou ta vie perso, c'est quoi le pire cadeau que tu aies reçu?
Alors, dans ma vie perso, donc c'est un petit espèce de petit serre-tête, un cache-oreille en moumoute noire que je n'ai donc jamais mis. Et dans ma vie pro, ce que je déteste, mais dans ma vie perso aussi d'ailleurs, c'est quand il y a une inadéquation entre le cadeau et le message envoyé par l'entreprise. C'est quand même souvent le cas, je pense en particulier à Monoprix. Et moi, là, ça me gêne beaucoup, utiliser des produits qui sont chers, qui sont pas écolos. Quand on vend, on promeut l'écologie et le bio, ça me gêne beaucoup.
Tu penses par exemple à des prospectus
Ouais, des prospectus avec vernis brillant en 300 grammes. Moi, là, ça me gêne. La philosophie, enfin, cette inadéquation de philosophie me gêne.
Eh ben, merci beaucoup, Adeline. On arrive à la fin de notre épisode. C'était vraiment super intéressant. Donc, si un de nos auditeurs est en pleine migration, se demande comment retenir leurs clients et les faire migrer, est-ce qu'ils peuvent te joindre ?
Ouais, sans problème. Avec plaisir.
Sur LinkedIn, par mail ?
Sur LinkedIn, par mail. Sans problème.
Très bien. Eh ben, merci beaucoup, Adeline. Et à bientôt pour un autre épisode.
Merci, Léonie.